L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Rome, ville millénaire, siège dans l'Empire aujourd'hui sous les décombres. Centre d'un monde antique dont l'éclat fut si retentissant que sa chute en changea la face du monde. Aujourd'hui, le temps de la splendeur est révolu. Rome est de part et d'autre de ses collines, soit un amas de ruines, soit un ensemble de bâtiments vétustes, qui manque d'ailleurs de s'effondrer au moindre coup de vent. C'est la décadence d'une cité qui abrita un jour le courage de Jules César ou la force de Pompée. La puissance de Jupiter et de Mars. Une cité qui, depuis près de 1000 ans déjà, concentre l'aura de la religion catholique et de son chef suprême, le pape. Sixte IV est un vieil homme de 69 ans qui sent que ses forces s'amenuisent chaque jour un peu plus. Son esprit génial et pétillant n'arrive plus à combler les défaillances physiques qui sont les siennes. À l'image de la ville dans laquelle il siège, ses fondations à lui aussi chancellent. Sa force le quitte, mais aujourd'hui, là, dans la sacristie immense du lieu qu'il va consacrer, le pouvoir divin, comme toujours, le transcende. Cette fête de l'Assomption a un goût des plus particuliers. Déjà car elle sera sa dernière, mais surtout parce qu'il s'apprête à dévoiler aux yeux du monde son plus grand chef-d'œuvre, celui qui permettra de redonner à Rome toute sa magnificence, la chapelle Sixtine. L'Esprit de Dieu régnant maître au-dessus de la ville éternelle. Nous sommes le 15 août 1483. Il est 8 heures du matin. C'est l'heure H de mon histoire. Quelques heures plus tôt, en plein cœur du Vatican, d'un pas pressé, le pape Sixte IV avance, entouré de ses conseillers les plus éminents et de l'architecte en chef du projet pharaonique en construction depuis plus de 6 ans. Cette chapelle, nommée Sixtine en référence à lui-même, est un ouvrage d'une qualité et d'une minutie extrême. Depuis le début de sa prise de fonction, le pontife mène une croisade, celle de redonner à Rome son lustre d'antan. D'une oreille distraite, le vieillissant Sixte IV écoute le bilan final que les hommes autour de lui présentent. Le soleil s'est levé il y a peu. Sur le sol de la place Saint-Pierre, les rayons se reflètent avec une intensité toute particulière. Le pape y voit un signe du Seigneur, assurément. Il s'apprête aujourd'hui à lui rendre le plus beau des hommages. La réflexion autour de l'état de la cité millénaire lui est apparue il y a bien longtemps, alors même qu'il n'était pas encore installé à cette position de tous les pouvoirs. En discussion avec des auteurs et des artistes italiens, il a été surpris de voir que Rome, à cause de son état de délabrement, n'attirait plus ni les peintres, ni les sculpteurs, ni les auteurs, non. Tous étaient rebutés par ces bâtiments aux fissures et aux cicatrices si profondes que rien ne semblait pouvoir sauver la ville de la disparition au moindre caprice climatique. Il avait vécu ça comme une véritable catastrophe. Et son accession à cette fonction extraordinaire lui avait laissé les mains libres totalement sur le sujet de la préservation de Rome. Oh, bien entendu, loin de lui la possibilité de régir les travaux publics d'une cité antique en mal de rénovation depuis des centaines d'années. Pour autant, ses moyens d'action et son pouvoir, sur un point bien précis, pouvaient permettre de faire basculer la tendance. Le rêve. Attirer les scientifiques et les artistes du monde entier en leur en mettant plein les yeux, en leur promettant le voyage initiatique de leur existence. Une prévisite au paradis, en quelque sorte. Sur la place, les oiseaux chantent et la foule commence à se presser. Tous ont les yeux rivés sur la chapelle, aussi modeste que grandiose, aussi camouflée que sublime. Par une voie dérobée intérieure, dans un enchevêtrement de labyrinthe comme seul le Vatican peut en avoir le secret, Sixte IV, toujours entouré de sa nuée de murmures autour de lui, telle une reine des abeilles dans un déplacement au cœur de la ruche, se concentre. Il bascule dans une sorte d'introspection très religieuse, extrêmement personnelle. Célébrer une messe, surtout quand elle est papale, est toujours un acte particulier. Au-delà du divin, c'est une certaine manière de voir le monde qui est présentée aux yeux des croyants. Rome, grâce à lui, a été embellie de la plus belle des manières. Musée capitolin, restitution à la ville de statues parmi les plus célèbres du monde, dont la célèbre louve adoptive qui abrita en son sein les fondateurs mythologiques de Rome, restauration et reconstruction de bâtiments religieux autant que d'aqueducs. Son action a été déterminante. Mais les chantiers qui se terminent là aujourd'hui, alors que sa vie à lui s'égrène vers la fin, ces chantiers-là ont un parfum des plus doux, des plus délicats. C'est la fragrance de la transmission, de la volonté de laisser un héritage dans le cas présent. Le plus beau des parfums, selon Sixte, qui, cette fois, débarrassé des conseillers, est resté seul. Enfin, non, il n'est pas tout à fait seul. Jésus sur sa croix l'attend, derrière la porte. Les fidèles aussi. Pour eux, comme pour le pontife, l'heure de la découverte a sonné. La chapelle Sixtine, prude, délicate, va se dévoiler au monde pour la toute première fois. Depuis les jardins du Vatican, qui bourdonnent du son des abeilles en ce mois d'août caniculaire, les chanceux qui se pressent peuvent découvrir le magistral bâtiment, ses dimensions. 40,93 mètres de long pour 13,41 de large. Rappel, celle du temple de Salomon. Sixte IV n'a rien voulu laisser au hasard. Il y a de quoi se casser la nuque en regardant la chapelle du bas. Elle s'élève à près de 21 mètres de haut, rien que ça. Et que dire lorsqu'on y pénètre pour la première fois? Du marbre polychrome au sol vous accueille. Des mosaïques près de l'autel marquent la position à laquelle, dans très peu de temps, le pontife va s'asseoir sur son trône. Le chemin processionnel aussi est tracé. Tout est calculé, chaque petit détail a été totalement pensé et repensé. Des fresques et des colonnes taillées dans les matériaux les plus précieux complètent l'ensemble et de nombreux vitraux splendides baignent la totalité du bâtiment dans une lumière absolument hallucinante. Ce qui se passe ici, se dit-on, lorsqu'on s'assoit dans la nef ce 15 août 1483, est de l'ordre du divin. La Rome catholique, celle qui surpassa l'ensemble du monde connu en son temps, est de retour. Et le pape, qui s'avance devant ses fidèles, vêtu de blanc et paré de ses attributs les plus précieux, n'est plus le vieil homme de 69 ans qui se regarde dans le reflet de sa tombe. Non, non, Sixte IV est transcendé. Le voilà représentant de Dieu sur terre et rien ni personne ne peut aller contre ça. Messager du Christ, gardien des saintes écritures, les reflets du soleil teintés de couleurs qui se superposent le font élever dans le ciel, là, juste devant le Christ crucifié. Cette fête de l'Assomption qui s'annonce est tout à fait particulière. Cet édifice resplendissant dans la foi, assurément, porte en son sein quelque chose de différent. Quelque chose déjà s'y exprime, peut-être le renouveau d'une ville endormie depuis des siècles. Certainement aussi, durant ce moment suspendu des premières paroles papales, la réaffirmation d'un catholicisme moteur dans une société vivant les balbutiements d'une renaissance qui changera bientôt le cours des choses. Au-dessus de la tête du pape, un plafond splendide s'expose aux yeux de tous. Que représente-t-il? Un ciel étoilé. Du bleu nuit et des jolies constellations. Mais allez-vous me dire comment ça? Pas de fresques minutieuses peintes au-dessus de sa tête? Aucune figure religieuse dessinée avec finesse et émotion? Eh bien, non. Non, aucune trace du génie Michel-Ange lors de cette consécration de 1483. La chapelle Sixtine est bel et bien née sans lui, au si bizarre que ça puisse paraître. Ah, ça vous surprend? Alors notre histoire du jour, certainement, va bousculer vos croyances les plus établies. L'histoire de Michel-Ange et de la chapelle Sixtine est l'une de ces histoires d'amour qui commencent mal, qui n'auraient même jamais dû voir le jour. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un monde où l'art se met au service de l'immortalité, où les techniques se renouvellent pour le meilleur, où les orgueils et les égos se mettent au diapason vers une seule et même destination, la compréhension de la foi et, au sens plus large, l'embellissement du monde. Notre histoire au milieu de la nef et des fresques peintes commence quelques années après la consécration que je viens de vous relater. Elle se passe toujours à Rome, toujours au cœur de la célèbre place Saint-Pierre. Sixte IV, le penseur d'une nouvelle ville éternelle, est mort le 12 août 1484, à quelques jours du premier anniversaire de cette chapelle Sixtine, qui fut son plus grand chef-d'œuvre. Et il a laissé à ses successeurs le soin de poursuivre une œuvre colossale, mais surtout celui d'assurer un service après-vente tout aussi hallucinant. La chapelle n'est qu'au début de son histoire, et déjà, des difficultés imprévues et colossales se dressent sur la route de ceux chargés de la faire briller. Nous sommes au tout début du mois de mai 1504. Le pape Jules II, à la longue barbe blanche et aux doigts tordus par l'arthrose, sort en catastrophe de ses appartements privés. Le soleil se couche à l'horizon et sur la place Saint-Pierre, de nombreux badauds, déjà, ont les yeux levés vers le bâtiment les plus célèbres de la chrétienté. Voilà plusieurs mois que la tour Borgia et surtout la basilique Saint-Pierre sont en travaux. Les réfections menées par Sixte IV n'ont pas suffi. Le chantier, de grande ampleur, magnifique à ciel ouvert, concerne les parties les plus historiques de Rome. Mais Jules II, lui, ne voit dans ce processus aucune beauté. Grand amateur d'art, le pontife, au-dessus de tout, aspire à la tranquillité. Il ne va pas être déçu. Descendant 4 à 4 les marches qui le séparent de la basilique, il déboule avec sa cour sur la place. Le regard tourné vers la chapelle Sixtine. Depuis sa consécration, c'est le lieu principal de toutes les commémorations menées par le pape. Un véritable phare dans la nuit. Au loin, l'astre solaire va disparaître. Et pourtant, Jules II est loin d'être le seul intrigué par le vacarme qui vient de se terminer. Sans réfléchir, son instinct lui a commandé de se déplacer aussi vite que possible. Les hommes, ici et là, contrôlent les échafaudages, entrent et sortent de la basilique en espérant qu'un pilier ne se soit pas écrasé sur l'autel ou la sacristie. D'autres sont envoyés dans la tour Borgia et ressortent aussi bredouilles que les premiers. Personne n'a rien vu. Enfin, comment est-ce possible ? Le bruit, strident et lancinant, a été entendu dans tout le vieux Rome, pourtant. La nuée de prélats s'affaire. Des gardes suisses, dans le tintement de leurs casques, ne cessent de courir comme des poulets sans tête. Et un homme, seul, au milieu de la place, semble avoir compris. C'est le pape Jules II, les yeux tournés vers la chapelle Sixtine, les mains moites et l'esprit embrouillé. Le vieil homme, qui se tient sur sa canne, voit le monde tourner autour de lui sans même y prêter la moindre attention. Toutes ses pensées sont dirigées vers la chapelle. C'est une évidence. Le bruit qui vient de résonner dans les rues et les bâtiments alentour ne peut venir que de ses entrailles. D'une voix brisée par l'émotion et d'une main tremblante, il saisit un garde qui se trouve à ses côtés. Lui demande d'aller vérifier que tout va bien dans la Sixtine. Interloqué, le soldat semble s'amuser d'une telle demande. La chapelle n'est-elle pas en travaux? Mais que pourrait-il bien s'y passer, après tout? Mais les ordres papaux ne se discutent jamais. C'est presque une parole d'évangile. Voilà donc que ce jeune homme à la moustache épaisse se dirige au pas de course vers l'immense porte de bois et disparaît dans les entrailles de l'édifice. Le cri qui se fait entendre à sa suite ne laisse pas la place au doute. Jules II avait raison. Une catastrophe vient de se produire dans le cœur même du Vatican, et personne, pas même Jules de lui-même, n'est alors en mesure d'en saisir l'ampleur. Lorsqu'il découvre l'étendue des dégâts, le pape a de quoi faire une syncope. Sixte IV avait fait le choix de ne pas faire représenter de figures bibliques sur le plafond. Le tout pour une question d'économie bien légitime face à la facture impressionnante de l'ouvrage. C'est donc la représentation d'un ciel bleu nuit doté de boules dorées pour représenter les étoiles qui fut retenue. Rien de plus classique qu'à l'époque. Et encore mieux, pas grand-chose de plus simple à mettre en place non plus. Tout s'est parfaitement déroulé depuis et si les fresques murales sont toujours en voie d'achèvement, la voûte, elle, s'est tenue à merveille. Jusqu'aujourd'hui. En levant la tête vers le royaume des cieux, les personnes présentes découvrent une gigantesque fissure qui traverse de long en large la nuit étoilée qui se trouve donc coupée en deux. Des morceaux de cette composition jonchent le sol. Tout de suite, il est clair que la chapelle est tout bonnement inutilisable. Une fissure au plafond. Rien de tel pour provoquer une catastrophe. Il va falloir trouver une solution, et vite. Comprendre les causes d'une telle dégradation aussi. Elle va vite être découverte. Ce sont les travaux. Les différents aménagements de grande ampleur de la basilique et de la tour Borgia ont quelque peu bousculé la chapelle Sixtine dans ses fondations et dans son équilibre. Le drame alors n'a pu être évité. Mais découvrir une plaie béante dans le plafond d'un édifice religieux quasiment neuf et à la facture des plus salées, autant vous dire que ça promet de sacrées migraines au pape Jules II. Pire ! Alors même que les autres bâtiments historiques de la place Saint-Pierre sont recouverts d'échafaudages, la Sixtine se retrouve maintenant dans l'impossibilité d'accueillir croyants et pèlerins. Une consultation d'urgence doit donc être menée afin de lancer une restauration de la voûte qui devient plus que nécessaire, voire vitale. Jules II est un de ces pontifes dont la vie précédente fut bien remplie. Assez pour avoir pu admirer la plupart des chefs-d'œuvre picturaux du monde occidental et donc d'en connaître les meilleurs artistes. Le meilleur d'entre tous, son préféré et son favori d'entrée de jeu pour mener à bien cette colossale restauration. Son nom ? Michel-Ange. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps et, il y a quelque temps, le pape lui a demandé de travailler sur le projet de sa tombe. Un peu glauque, vous allez me dire. Et pour cause, Jules II est toujours bien vivant. C'est d'ailleurs l'argument que certains des ennemis de Michel-Ange commencent à souffler à l'oreille du pape. Quoi qu'il en soit, la Sixtine a le besoin criant d'une restauration menée tambour battant. Mais là encore, Jules II fait face à de nombreuses difficultés. Mener une consultation pour le chantier, très bien, mais ça prend du temps. Le processus est délicat, doit passer entre plusieurs mains. Et pendant ce temps-là, eh bien le temps s'étire. Pendant ce temps-là, la fissure n'est pas réparée. Et donc, les plus importantes cérémonies de la chrétienté ne peuvent se tenir dans ce lieu prévu à cet effet. Les tensions grandissantes dans l'entourage du pape à ce sujet ne cessent de s'envenimer. Et bientôt, voilà que la guerre s'en mêle. Jules II est contraint de lancer des assauts militaires contre Pérouse et Bologne. Autant vous dire que les priorités changent et que l'économie, elle, devient pleinement tournée vers l'effort de guerre. C'est ainsi que les choses vont stagner pendant près de 2 ans entre report et rebondissement de dernière minute qui empêche absolument toutes les tentatives de mise en place d'une restauration que le temps rend pourtant de plus en plus indispensable. Le climat autour de la chapelle Sixtine au début du XVIe siècle est ainsi particulièrement instable et délétère. Les choses ne bougent pas et lorsqu'elles le font, c'est pour du moins bien. Un véritable cercle vicieux qu'il semble impossible de briser. Fort heureusement pour la chrétienté, l'opiniâtreté de Jules II n'a d'égal que son courage. Il se décide au début de l'année 1506 à se lancer dans l'aventure, à provoquer les choses pour que tout puisse enfin aboutir à une réouverture de ce magnifique écrin au cœur de la place Saint-Pierre. Chose qu'il va faire sans pouvoir anticiper une nouvelle catastrophe, humaine celle-là. Une dispute va mettre en péril tout son travail de préparation. Michel-Ange, celui que Jules II souhaite voir à la manœuvre, travaille depuis longtemps sur ce projet de monument funéraire. Mais les artistes de la cour papale, jaloux, ont eu raison de ce projet par leur murmure. Le pape décide de tout arrêter sous prétexte que préparer sa propre mort a quelque chose d'un peu égocentrique. L'artiste, blessé au plus profond de son art, prend la poudre d'escampette et rompt brutalement avec sa sainteté. Impossible de rattraper cet oiseau qui s'envole et qui s'enfuit vers Florence en quittant la ville éternelle. Nous sommes alors le 18 avril 1506 et le pape Jules II, s'il souhaite vraiment pouvoir observer un jour la chapelle ornée des plus belles peintures de son temps, va devoir se montrer magnanime. Ce ne sera pas une mince affaire.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H s'intéresse à la magnifique chapelle Sixtine et plus particulièrement à son artiste le plus célèbre, Michel-Ange. Mais avant que ce dernier ne pose ses pinceaux géniaux sur le plafond abîmé de la splendeur du Vatican, le pape Jules II a dû faire face à de nombreuses difficultés structurelles, politiques, mais aussi humaines. Une embrouille au sujet d'un ancien projet fait sortir l'artiste de ses gonds. Il fuit carrément la ville de Rome pour se réfugier à Florence, où il espère trouver de la quiétude. Il se trompe. Jules II le veut, à tout prix. Et pour ce faire, il est prêt à toutes les concessions. Nous sommes le 10 mai 1506. Michel-Ange vient de recevoir un courrier qui lui propose d'être le principal artisan d'un projet complètement fou. Recouvrir avec de magnifiques fresques le plafond de la chapelle Sixtine. Qui plus est, il aura carte blanche, parole du pape. Mais le Florentin, au tempérament sanguin, se méfie de celui qu'il appelle la langue de vipère. La commande du tombeau pour lequel il a déjà acheté les matériaux ne sera jamais honorée. Pas de paiement, ni même de remboursement de la part du Vatican après avoir brisé le contrat. C'est une honte absolue. Et Michel-Ange, le nez collé contre sa fenêtre en ce matin de fin de printemps, connaît pertinemment le coupable dans cette affaire. Ce n'est pas tant le pape, oh ça non. Quelqu'un d'autre est à la manœuvre. Non, c'est bel et bien Donato Bramante, son pire ennemi, celui qui murmure à l'oreille du pontife qui est à blâmer. Les poings serrés, l'artiste enrage. Ce ne sont tous que des jaloux, des impertinents. Il se laisse submerger par ses émotions. Il a quitté Rome depuis une dizaine de jours après un échange de courriers pour le moins explosif avec Jules II. Il ne reviendra sur sa décision que si le pape se couche à ses pieds en acceptant toutes ses conditions. Ce qu'il va faire. Certains des artistes de sa cour ont bien encore tenté de le dissuader, de confier ses tâches à cet artiste qui dérange. Après tout, Raphaël est bien meilleur dans la réalisation des fresques. Peut-être, mais il est occupé à en peindre dans les appartements privés du souverain pontife. Qu'il en soit ainsi, Michel-Ange est confirmé. Jules II ne commettra pas la même erreur deux fois. Les étapes sont lancées. Commission, plan et croquis, tout cela va se succéder durant deux ans. Et c'est qu'à la fin du mois de mai 1508 que l'aventure pinceau en main commence pour de bon. Pour le plus grand bonheur du peintre et celui du pape. Mètres de long, 14 de large, 1100 mètres carrés de surface totale. L'ouvrage paraît impossible à réaliser. Ce ne sera pas simple. L'expérience en fresque de Michel-Ange n'est en effet pas extraordinaire. Il va pourtant se surpasser. Ce sont finalement 4 ans qui vont s'avérer nécessaires pour que l'ensemble de la voûte puisse se dévoiler. une éternité. Les 9 subdivisions qui s'étalent aux yeux des fidèles sont regroupées en 3 catégories distinctes. La création, le jardin d'Éden et pour finir, le déluge. 3 épisodes de l'Ancien Testament. Rien ne fut simple, comme vous pouvez l'imaginer. Problèmes techniques et délais à respecter vont assaillir l'artiste. Le pape Jules II se montrant très impatient. Ce qui complexifie l'ensemble est la technique utilisée, à savoir des lavis de peinture sur du plâtre humide. Pas le droit à l'erreur, pas de reprise possible. Il faut donc que les croquis soient parfaits, découpés en différentes sections et les plus précis possibles aussi. Bien entendu, le peintre n'est pas seul. Il a amené avec lui dans ses valises des confrères de confiance qui viennent pour la plupart de Florence. Parmi les grosses difficultés de son ouvrage, l'équipe est victime du climat romain lorsqu'est appliqué le plâtre de Florence. Les différences climatiques entre les deux villes entraînent l'apparition de moisissures, ce qui oblige Michel-Ange à devoir retirer la peinture pour tout recommencer. C'est l'horreur. Le pape est sans cesse derrière son dos. Michel-Ange perd son sang-froid à plusieurs reprises, allant jusqu'à chasser le pontife de sa propre chapelle. L'anecdote est célèbre, mais un jour de dispute, le pape aurait même menacé de balancer l'artiste de l'échafaudage pour le frapper à coups de bâton. Ouais, étant donné la hauteur à laquelle Michel-Ange pouvait peindre, une chute aurait certainement suffi à l'achever. Rapidement, tous comprennent que l'ouvrage va faire polémique. Des saints et des martyrs nus se mélangent et la représentation telle qu'elle est produite est aussi originale que dérangeante. Le Christ est la figure centrale de tout ce qui se passe et vient donc, par son autorité, asseoir la manière dont l'artiste a pu réaliser les événements bibliques. Mais voilà qu'enfin, après des années passées à peindre les yeux tout près du plafond, la peinture recouvrant son visage, ses tenues et ses mains, Michel-Ange arrive à ses fins. Tout est terminé. Le pape Jules II, bientôt, pourra réouvrir le lieu au plus grand nombre, des années après le début des travaux. Et enfin, la Sixtine, elle, pourra resplendir de nouveau sur le monde et sur les croyants.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H est consacrée à l'artiste Michel-Ange et plus particulièrement à son œuvre sur le plafond de la célèbre chapelle Sixtine. Après de nombreuses péripéties, voilà que le travail est sur le point d'être achevé. L'ouverture au public se profile. Plusieurs années ont été nécessaires au génial artiste pour achever ce travail qui restera celui qui le fera entrer dans l'immortalité. Tout le monde connaît le plafond de la chapelle Sixtine. Des milliers de touristes, tous les jours, se rendent à Rome pour le voir. Signe de la prouesse technique qui fut la sienne, marqueur, on ne peut plus clair, de la célébrité du lieu. Sixte IV, a posteriori, a assurément réussi son pari. Michel-Ange et Jules II aussi. La chapelle Sixtine a remis Rome au centre du jeu touristique et culturel mondial, pour le plus grand bonheur de l'Église et de ses représentants. Nous sommes le 31 octobre 1512, en fin de matinée. Jules II, sur le trône papal, célèbre une messe que tout le monde, et lui en premier lieu, attend depuis des années. Au cœur de l'édifice qui depuis trop longtemps s'était endormi. Le lieu du conclave, cet organe qui sert à élire les papes, la chapelle Sixtine, l'endroit dans lequel la vie de chacun de ses saints pères est amenée à changer, rouvre ses portes, enfin. La redécouverte de ce lieu, en cette veille de la Toussaint, est un moment qui entre dans l'histoire. Jules II, lui-même ému, à la voix tremblante. Pourtant, il a suivi le chantier de très près. Mais là, sous les fresques magnifiques de Michel-Ange, la parole de Dieu sort de sa bouche. Il préside, les yeux grands ouverts, à la réouverture d'un des lieux les plus importants de sa religion. Les personnages semblent prendre vie, tout là-haut, déployer des scènes bibliques, apporter des images aux mots. Et pour la première fois, ils permettent aux croyants de lever les yeux vers les cieux et d'avoir une idée de ce que peut être le paradis. Le pape, s'il est subjugué, n'est pas tout à fait satisfait. Il voudrait voir plus de dorures. À sa droite, debout dans les allées, Michel-Ange est là. Il devra penser à le dire à l'artiste. Il faut ajouter à l'ensemble quelque chose. C'est sans compter le mordant du peintre, mais ça, Jules II, en plein milieu de la célébration de la messe, l'ignore encore. D'ailleurs, les fidèles, qui sont aujourd'hui présents, ne l'écoutent qu'à moitié. Ce qui les intéresse, assurément, c'est de découvrir le travail magnifique qui se dévoile devant eux. Certains, demain, auront des torticolis à rendre impuissant le plus expérimenté des médecins. Mais peu importe, ce qui compte, c'est de regarder chacun des dessins, de découvrir les détails et la nudité des personnages. Certains y voient un signe de provocation, s'offusquent. D'autres, au contraire, applaudissent une forme de progrès dans la représentation de l'art pictural des scènes bibliques. Michel-Ange, lui, jubile. Le barbu, d'un regard pétillant, observe les réactions des uns et des autres. C'est cela, l'art, provoquer, ne pas laisser indifférent. Accepter que des choses puissent ne pas nous plaire, pire, qu'elles nous choquent. Ouvrir l'esprit des gens, des fidèles, dans le cas présent, c'est la mission de tout artiste qui se respecte. C'est du moins la manière de voir les choses du peintre Michel-Ange. La messe, qui quelquefois ennuie dans les travées, cette fois a donc une saveur particulière. Le pape joint la parole à l'image et subjugue, transcende la parole de Dieu. Tout se termine à point. Les fidèles ressortent de ce moment dans un état second, comme transportés durant quelques heures derrière les portes de Saint-Pierre. Le pape, lui, profite d'un moment de répit pour s'entretenir avec Michel-Ange. Il veut lui parler des dorures. L'artiste est réticent. Remonter un échafaudage de cette taille réclame beaucoup de travail. Depuis longtemps déjà, le peintre prépare sa parade. Il a avoué à ses amis à quel point il en avait marre de ce pape si directif dans ses choix et dans sa manière de gérer les choses. Le dialogue qui suit est resté célèbre. Le pape, devant témoin, prend à partie l'artiste en ces mots. Que la chapelle s'enrichisse de couleurs et d'or, car elle est pauvre. La réponse de Michel-Ange, cinglante, ne se fait pas attendre. Saint-Père, à cette époque, les hommes ne portaient pas d'or, et ceux qui sont peints n'étaient jamais trop riches. Mais en homme saint, ils distribuaient les richesses. L'art de la diplomatie, certes, de la reconnaissance de son propre travail avant tout. La suite des événements est pour Michel-Ange un véritable défilé de confrères qui viennent le regarder avec des yeux écarquillés. En premier lieu, le non moins incroyable Raphaël, rien que ça. Ce travail, pour autant, est au tout début de son existence. Même Michel-Ange n'en a pas fini avec lui. Le plafond de la chapelle Sixtine n'est en effet pas terminé. Le peintre va revenir, pas avare de donner deux nouveaux chefs-d'œuvre à son ensemble. Plus de 20 ans après cette solennelle réouverture, le pape Clément VII commande à l'artiste une œuvre monumentale peu de temps avant de mourir. Il veut une représentation du jugement dernier, derrière l'autel de la Sixtine. Pour ce faire, il va falloir pourtant sacrifier des fresques, anciennes pour l'une d'entre elles, du XVe siècle. L'Assomption du Pérugin passe à la trappe. Mais plus surprenant, certaines petites parties de l'œuvre originelle de Michel-Ange aussi. C'est assurément pour la bonne cause. Ce jugement dernier, sans aucun doute possible, entre par la grande porte dans la catégorie des œuvres picturales de référence. Michel-Ange, à l'époque de cette réalisation, a déjà 60 ans. Pourtant, il n'a rien perdu de son talent. Tout dans cette œuvre est beau, délicat, coloré, et donne à l'ensemble de ce travail une véritable harmonie qui scotche tout le monde. Plus de 6 ans de travail supplémentaire, une inauguration que le pape commanditaire ne verra pas car il décède en 1534 et de nouveau, un incroyable engouement autour de cette œuvre. Pour autant, les croyants et les prélats, jusqu'à certains papes eux-mêmes, sont particulièrement divisés autour de l'ensemble réalisé par l'artiste. Adrien VI, pape très conservateur, n'hésite pas à souhaiter que les fresques de Michel-Ange disparaissent. Le balancier entre les défenseurs de cette nouvelle forme d'art et les conservateurs, outrés de voir des hommes et des femmes dans le plus simple appareil, aussi biblique puisse-t-il être, est sans cesse en mouvement. Et ce, durant plusieurs dizaines d'années. Et puis finalement, la Sixtine, telle qu'elle a été conçue par le génie pictural, s'impose d'elle-même. Son créateur lance l'idée au Vatican de recruter un nettoyeur professionnel chargé de garder l'ensemble en bon état, ce qui sera fait. Le peintre, à l'âge canonique de 88 ans, décède en 1564. Il n'aura cessé de repenser au fil de ses vieux jours à cette réalisation qui, déjà de son vivant, l'a fait basculer dans une célébrité absolument dantesque. Comme un symbole, les premières déconvenues surviennent quelques mois seulement après sa mort, comme si la Sixtine était en dépression de voir Michel-Ange partir rejoindre son créateur. Un affaissement en 1565 entraîne, par effet de domino, les premières nécessités de restauration. Mais les techniques de conservation n'en sont qu'à leur balbutiement. Et alors que les interventions au cours des siècles suivants se répètent, les bêtises, elles aussi, viennent se mêler au jeu. Des pigments, certainement à base de colle d'origine animale, sont étalés au XVIIIe siècle sur l'ensemble de la voûte, ce qui bientôt rend l'ensemble plus brun, moins coloré. Les perceptions changent, tout paraît plus sombre. La fumée des cierges, l'eau qui s'infiltre ici et là aussi, perturbe l'ensemble de l'œuvre. La première des conséquences de ces restaurations, pas toujours réussies et réalisées presque chaque siècle depuis la fin du jugement dernier, c'est le changement de prisme sur le travail de Michel-Ange. De peintre peps, frais, aux couleurs diverses et vives, il passe bientôt pour un artiste sombre, aux influences qui pourraient presque paraître flamandes. Ce n'est pas le cas. Et une restauration réalisée il y a 30 ans avec les informations les plus proches possibles de la vérité de l'époque le prouve. Aujourd'hui, les visiteurs du monde entier peuvent admirer la peinture comme l'artiste a pu l'imaginer, bien que ce ne soit pas totalement le cas. Le ciel bleu a retrouvé son éclat, les figures bibliques, la grâce de leurs gestes et la beauté de leur splendeur. Pour autant, certains spécialistes sont allés critiquer cette restauration, jugeant que les souhaits de l'artiste n'avaient pas été respectés. La polémique, 30 ans plus tard, existe toujours. Les aléas de l'existence aussi ont façonné l'édifice. Peu avant 1800, le monument d'Adrien est victime, par exemple, d'une explosion qui vient détruire une partie de l'ouvrage. Quoi qu'il en soit, les fresques de Michel-Ange, aujourd'hui restaurées, viennent assurément témoigner d'une avance technologique et artistique considérable sur son temps. La chapelle Sixtine, en tant qu'édifice religieux, rappelle par ses dimensions le temple de Salomon. Elle est le symbole aussi de la Vierge comme symbole de sagesse divine. Elle n'est pas l'œuvre de Michel-Ange uniquement. Bien d'autres artistes y posent leur influence avant que le magnifique plafond ne soit réalisé. Si aujourd'hui, c'est bien le travail de notre héros du jour qui est porté au nu, il ne faut pas oublier celui des autres. Découpé en 9 parties, le magistral plafond regroupe de nombreuses thématiques de la Bible. L'ivresse, le déluge, le sacrifice, la faute d'Adam, la création d'Ève, la création d'Adam, Dieu séparant les eaux, la création et pour finir, Dieu séparant la lumière et les ténèbres. Dès l'époque de sa conception, à laquelle est rajouté par la suite le jugement dernier derrière l'autel, l'ouvrage fait scandale. Il pose en effet un regard critique sur l'Église, prône la nudité dans une période où les prélats cachent leur regard devant un saint. Le pape Paul IV alla jusqu'à cacher le sexe de certains personnages du jugement dernier. C'est toute la force de Michel-Ange. Celle d'avoir, par un côté absolument novateur et subjugant, changé les mentalités, apposé sa patte artistique sur la signification même des évangiles et de leur interprétation par l'Église. L'artiste, tout comme son œuvre, est passé à la plus pure et immortelle des postérités, plus de 500 ans après le début de sa réalisation. Ces fresques, au fond, sont aussi la représentation de deux formes d'art de la Renaissance, mais aussi, entre le plafond et le jugement dernier, une transition dans la manière de peindre de Michel-Ange lui-même. Un complexe et magnifique témoignage d'un parcours artistique, en plein milieu d'une époque victime d'une multitude de bouleversements politiques, culturels et sociaux. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation tirée d'un documentaire sorti en 2018. Dans ce Michelangelo Infinito, réalisé par Emmanuel Imbucci, sont prononcées ces paroles pleines de sens sur le travail du peintre. Où il a posé sa main divine, il a ressuscité chaque chose et lui a donné une vie éternelle. Michel-Ange a enlevé le bandeau que nous avions sur nos yeux et nos esprits et a fait la distinction entre le vrai et le faux. Remerciez le ciel pour ça et efforcez-vous d'imiter Michel-Ange en toute chose. Ouais. Que rajouter de plus? Amen, peut-être? Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.